Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré, à demain. Des ordres d'évacuation à répétition qui mènent à des transferts de population à Gaza. Dans un rapport publié ce matin, l'ONG Human Rights Watch accuse Israël de crimes de guerre dans le territoire. Plusieurs tonnes d'aide humanitaire sont toujours bloquées aux portes de l'enclave. Carton plein pour les républicains aux États-Unis, déjà majoritaires au Sénat, ils gardent le contrôle de la Chambre des représentants. À suivre aussi l'ex-président du Sénégal en télécampagne pour les législatives anticipées de dimanche, Macky Sall. Tête de liste depuis le Maroc. Et puis en France, Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la présidentielle de 2027? La chef du RN menacée d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires. Le cycle attaque représailles entre Israël et le Hezbollah. Nouvelle frappe ce matin de l'État hébreu sur la banlieue sud de Beyrouth. Alors que 6 soldats israéliens ont été tués hier dans le sud du Liban, le ministre israélien de la Défense a promis, je cite, de ne pas lever le pied face au mouvement chiite sur le front de Gaza. C'est un rapport à charge, je vous le disais, que publie aujourd'hui l'organisation Human Rights Watch. Elle accuse Israël de crimes de guerre dans le territoire palestinien, avec le transfert forcé de civils qui ne pourront plus revenir dans les zones rasées, nettoyées selon l'organisation. Israël, de son côté, met en avant l'ouverture d'un nouveau point de passage à Gaza cette semaine sous pression américaine pour permettre l'acheminement d'aide humanitaire et de marchandises. Mais c'est loin, très loin de suffire, estime un économiste gazaoui interrogé à Gaza par Rami El-Megari avec Sami Bourlifa à Jérusalem.
100 000 tonnes de denrées, soit l'équivalent de plus de 2 mois de rations alimentaires pour l'ensemble des 2 300 000 Gazaouis, sont bloquées actuellement aux portes de la bande de Gaza, affirment les Nations Unies. Économiste gazaoui Mohamed Abou Jayeb suit de près le marché alimentaire de Gaza.
Les Israéliens adorent les campagnes de propagande. Ça leur permet de donner des gages à la communauté internationale et aux ONG, de leur faire croire qu'ils font de leur mieux pour améliorer les conditions humanitaires et alimentaires dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne, via le COGAT, son organe de gestion des affaires civiles palestiniennes, précise avoir ouvert 5 points de passage en tout pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Chaque jour, des camions chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris sont autorisés à entrer dans Gaza, assure son porte-parole. Mais dans les faits, estime Mohamed Abou Jayeb, la situation reste désastreuse.
Depuis début octobre et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a permis à aucun commerçant palestinien de faire entrer des marchandises à Gaza. Cette situation ouvre la voie à la contrebande et à la corruption. Et c'est le citoyen palestinien qui en paye le prix en bout de chaîne. Les prix sont exorbitants, c'est de la folie.
Avant la guerre, un sac de farine de 25 kilos coûtait dans les 5 euros. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus cher. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourlifa, Jérusalem. RFI.
Le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences sur le football, c'est un match sous très haute surveillance qui se jouera là ce soir au Stade de France. France-Israël, après les violences de la semaine dernière entre supporters en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. 4000 policiers et gendarmes seront déployés autour du Stade de France. Le préfet de police a promis une tolérance zéro. Il sera le visage de la future diplomatie américaine. C'est confirmé aux États-Unis. Marco Rubio, nommé secrétaire d'État par Donald Trump. Le sénateur républicain de Floride est notamment connu pour ses positions très dures envers la Chine. Et puis pour la direction nationale du renseignement, le président élu a choisi Tulsi Gabbard, transfuge du Parti démocrate. Elle avait notamment pris position en faveur de la Russie. Donald Trump, qui aura les mains libres pour appliquer sa politique avec le contrôle donc de la Maison-Blanche, du Sénat et aussi de la Chambre des représentants qui reste républicaine. C'est un tiercé gagnant, Guillaume Nodin.
Il a fallu plusieurs jours de décompte et ce n'est d'ailleurs pas terminé, mais les républicains conservent la majorité à la Chambre. Même le leader démocrate Hakeem Jeffries le reconnaît. La victoire est donc totale pour le Grand Old Party. En venant voir les élus à Washington avant d'aller à la Maison Blanche, Donald Trump a d'ailleurs triomphé sous les applaudissements en disant plusieurs fois qu'il est agréable de gagner. Mais cette victoire est ténue et son allié Mike Johnson, speaker de la Chambre sortante et qui devrait le redevenir dans la prochaine, lui a demandé de ne plus venir chercher dans son groupe les personnes qu'il entend nommer former au gouvernement sous peine de mettre en danger cette majorité. Au Sénat, il y aura un recomptage des voix en Pennsylvanie, mais cela ne changera rien. Les sénateurs républicains seront les plus nombreux. Ils ont désigné leur leader, l'élu du Dakota du Sud, John Thune. Jusque-là, numéro 2 du groupe, il s'impose à bulletin secret face notamment au sénateur de Floride Rick Scott, allié de Donald Trump et soutenu publiquement par l'influent milliardaire Elon Musk. John Thune annonce que, contrairement à ce qui était souhaité par Donald Trump, le Sénat assumera son rôle de contrôle et de confirmation des personnes choisies par le président pour composer son administration. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et parmi les têtes d'affiche de cette future administration, Elon Musk, entre autres patron du réseau social X, eh bien à son tour le quotidien espagnol La Vanguardia annonce qu'il ne publiera plus ses contenus sur X. La plateforme est devenue, selon le journal, un réseau de désinformation. La piste d'un loup solitaire avancée par les autorités locales au Brésil après une attaque qui a visé la Cour suprême à Brasilia. Un homme portant des explosifs a tenté de pénétrer dans le bâtiment. La police a ouvert une enquête alors que le président brésilien Lula accueille dans quelques jours un sommet du G20.
RFI à Dakar, 92 FM.
C'est la dernière ligne droite de campagne pour les législatives anticipées au Sénégal. Le scrutin, ce sera dimanche, 8 mois après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est tête de liste du PASTEF, le parti au pouvoir. Et l'ancien président, Macky Sall, lui, est revenu dans le jeu politique à la tête de la coalition d'opposition Taku Walou. Un retour, mais à distance. Depuis son départ du palais, Macky Sall réside au Maroc et il est donc en télécampagne, Lalisa Westerhoff.
Nous sommes tout le temps en contact par téléphone, affirme Abdoumbo, l'un des cadres du parti de Macky Sall. Même son de cloche chez le coordinateur de la campagne de Taku Walou, Sédou Gueye, qui parle d'une présence digitale et vocale importante de l'ex-président qui, depuis le Maroc, lui parle plusieurs fois par jour et participe à toutes les réunions. Pour ses fidèles, l'absence de la tête de liste nationale ne porte donc pas préjudice à leur coalition. La stratégie a été adaptée, avec dans chaque département la tête de liste locale qui fait campagne sur le terrain, le choix aussi de faire du porte-à-porte plutôt que des grands rassemblements, enfin de s'associer dans presque tous les départements du pays avec la coalition de l'opposition Sam Sakadou, emmenée par le maire de Dakar, une intercoalition qui doit servir à récolter plus de voix de l'opposition. Reste à savoir pourquoi Macky Sall a choisi de ne pas revenir au Sénégal battre campagne. L'ex-président ne s'en est pas expliqué. Pour le professeur de sciences politiques Maurice Soundiek Dion, un retour aussitôt du président sortant n'a pas été envisagé, car il risquait, je cite, de créer des tensions alors que le Sénégal sort d'une période très difficile en matière de violation des droits et des libertés. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Après 3 ans de gel, la France reprend son aide en Centrafrique via l'AFD, l'Agence française de développement, et un don de 10 millions d'euros. Un signe, selon l'ambassadeur de France à Bangui, de la normalisation des relations bilatérales entre les deux pays. Paris avait suspendu son aide budgétaire à la Centrafrique, jugée complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie en 2021. En France, l'avenir politique de Marine Le Pen menace. C'est la chef du Rassemblement national jugée en ce moment dans l'affaire des faux assistants du Parlement européen, selon l'accusation. Le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, c'est-à-dire que cela s'appliquerait immédiatement même en cas d'appel. Son avenir politique donc de Marine Le Pen est menacé, Aurélien Devernoy.
Si les juges suivent les réquisitions, Marine Le Pen pourrait donc être condamnée à manquer la prochaine élection présidentielle. La peine d'inéligibilité serait en effet valable, même si la chef de file du RN fait appel. Le procureur l'a d'ailleurs spécifiquement précisé lors de son réquisitoire. Un scénario catastrophe pour le Rassemblement national, une violence a tempêté Marine Le Pen à la sortie de la salle d'audience. La volonté du parquet est de priver les Français de la capacité à voter pour ceux qu'ils souhaitent, a-t-elle ajouté. Ce mobile politique, c'est ce que martèle le RN depuis le début du procès, ce qui n'a sans doute pas attendri l'accusation. Aussitôt les réquisitions révélées, c'est tout l'écosystème Le Pen qui s'est activé, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je soutiens Marine ». Jordan Bardella est lui aussi rapidement monté au créneau. Le président du RN a fustigé un esprit de vengeance et une atteinte à la démocratie. Reste qu'il pourrait bien être le grand gagnant de ce procès, représentant l'alternative la plus évidente pour le RN en cas d'empêchement de Marine Le Pen. L'avocate de formation qui doit se mordre les doigts d'avoir négligé le risque de l'exécution provisoire de sa peine en raison d'une loi entrée en vigueur à la toute fin des faits qui lui sont reprochés.
Aurélien Devernoy, fin de ce journal sur RFI. Il est 11h10 à Paris. On retrouve Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins. À tout à l'heure.